Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous. On continue sur le Forum de l'aménagement durable. On parle des trophées. Ces trophées qui, on va le voir, ont été décernés à des projets innovants. Pour nous en parler, on est ravis d'accueillir Jessica Schmitt. Bonjour Jessica, la directrice région Champagne-Lorraine au Crédit Mutuel Aménagement Foncier. Jessica, vous êtes venue avec votre directeur adjoint en tout cas de CMF, Crédit Mutuel Aménagement Foncier, c'est Mathieu Berck. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Et puis vous avez travaillé en collaboration avec Nicolas Gravit. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'Eiffage Aménagement.
Tout à fait.
Bienvenue à vous. On va découvrir ensemble un projet qui a été lauréat de ce trophée de l'aménagement durable, le projet Lisez. On a une présentation, alors je m'excuse par avance pour ceux qui nous écoutent à la radio, on va essayer d'être illustratif dans nos propos. Qui nous présente le projet, Nicolas ?
Bien, bonjour à tous. Le quartier Lisez. Alors pourquoi ce nom ? Parce que c'est un projet qui est monté sur une ancienne caserne qui était la caserne Lisez. Donc à Montigny-lès-Metz.
On est où, Montigny-lès-Metz ?
Montigny-lès-Metz, on est à Moselle, la première commune qui touche de la métropole de Metz.
Commune limitrophe.
Voilà, qui touche Metz. Et une particularité de cette caserne, c'est que c'était la caserne qui a été commandée par le colonel de Gaulle, j'ai bien dit colonel, de 1937 à 1939, donc avant la Seconde Guerre mondiale. Donc un lieu assez symbolique. Alors pourquoi travaillons-nous sur une caserne ? C'est que cette caserne a été libérée par l'État. Il y a quelques années, il y a eu un grand plan de l'État de libération des fonciers de la Défense. Et donc un certain nombre de casernes sur tout le territoire ont été fermées, dont celle de Montigny-lès-Metz, qui se situe dans un endroit de la commune qui est stratégique, à mi-chemin entre deux quartiers, le centre-ville et les quartiers hauts de Montigny. Donc il y avait un enjeu très fort de couture urbaine. Et un enjeu fort aussi de repeuplement, puisque la métropole de Metz a perdu beaucoup de militaires avec cette politique, et il fallait reconstituer donc un tissu urbain et un tissu de population. Donc dans ce cadre-là, l'État a souhaité céder ce foncier qui fait à peu près 9 hectares, avec quelques bâtiments importants, des bâtiments qui n'avaient aucune valeur, quelques bâtiments historiques dont le bureau du colonel de Gaulle, bien entendu, et un espace paysager qui était déjà à l'époque relativement important. Donc l'État, ne sachant pas trop comment valoriser ce terrain, a trouvé un accord avec la collectivité via l'établissement public foncier pour mettre à disposition ce terrain à la collectivité après un travail réalisé par l'EPF de dépollution et de démolition. Donc un montage assez particulier. Qui montre que sur les fonciers de l'État, on peut réaliser également de très belles choses et qui vont dans le sens des politiques urbaines actuelles.
Alors on est d'accord sur ce site, effectivement, il était désaffecté, complètement inhabité, et on voit pourtant des atouts, hein, enfin en tout cas les atouts du site, un paysage à préserver puisque très, très boisé, une atmosphère, pourquoi pas, on sait que c'est toujours compliqué de garder les bâtiments. Mais effectivement, bâtiments historiques.
Alors, les bâtiments et les arbres, puisque pour la petite anecdote, il y avait 246 arbres, on en a gardé 123. Il y a des diagnostics phytosanitaires qui ont été faits. Et aujourd'hui, c'est 554 arbres qui se trouvent sur le site.
D'accord. Donc, vous avez pu doubler, enfin, d'abord conserver que la moitié, puis ensuite en replanter finalement. Au niveau de la construction, quelles étapes vous avez suivies, puisque on sait une fois de plus quand on aborde ce projet, c'est pas évident, ça peut coûter très cher, l'équation économique est pas évidente. À ce moment-là, une fois de plus, comme on l'a vu dans un précédent projet, Lisez, pour lequel vous concurrez pour l'année prochaine, il a fallu, Mathieu Berck, faire preuve d'inventivité, essayer de trouver le meilleur moyen de financer et de trouver la clé de l'équation économique.
Effectivement, donc la collectivité, dans ce cas précis, a fait un appel à manifestation d'intérêt. Donc, on a pris le parti de faire un groupement, tout d'abord un groupement d'aménageurs, donc qui est composé à la fois d'Eiffage Aménagement, de Crédit Mutuel Aménagement Foncier et de Mathieu Hébard Immobilier. Et donc, avec ce groupement d'aménageurs, nous nous sommes rapprochés en même temps de promoteurs immobiliers, dont FH Immobilier et de Mathieu Hébert Immobilier, avec l'entreprise Claude Rison et le dernier Habité, voilà, pour la partie logements sociaux. Ce qui nous a permis, une fois que tous ces acteurs étaient réunis, d'avoir toutes les données en main pour développer un projet qui financièrement tournait pour tout le monde, à la fois pour l'aménagement, pour la promotion immobilière, et ce qui permettait de répondre à la demande de la collectivité en termes d'offres foncières. Donc c'est sur la base d'un montage de ce type que le groupement a été retenu avec l'atelier de monsieur Villemotte pour la partie urbanisme.
Très bien. Le principe de la mécanique foncière, qui veut nous le décrire, Jessica ?
Je pense que Nicolas qui l'a vécu.
Alors, mécanique foncière un peu compliquée, mais nous ne sommes intervenus qu'à la phase ultime du schéma qui est à l'écran. Désolé pour les auditeurs. Mais l'idée, c'était quoi ? L'État, comme je l'expliquais tout à l'heure, mettait à disposition cette caserne pour l'euro symbolique, en accord avec la ville de Montilly-Metz qui avait, bien entendu, ce projet urbain à réaliser. L'EPF Grand Est est intervenu pour prendre la main à la place de la ville, pour procéder aux opérations de démolition et de dépollution essentiellement, pour le rétrocéder, le terrain libéré, nettoyé, entre guillemets, à la ville de Montilly-Metz, qui elle-même a organisé un appel à projet auquel nous avons répondu tous ensemble, un bel projet donc réalisé avec l'atelier Villemotte, des paysagistes, des urbanistes, qui nous ont permis de valoriser le foncier à hauteur d'1 million d'euros. On reste quand même dans des épures financières très, très faibles, puisque derrière, il y a quand même un projet relativement important. On n'est pas sur des marchés immobiliers en zone très tendue, donc il faut être très, très prudent sur les valeurs immobilières. Et on avait surtout un projet d'aménagement ambitieux en termes d'espace public, en termes d'équipement public, en termes d'espace vert et de biodiversité. Donc tout ceci a fait que nous avons trouvé cet accord avec l'ensemble de ses partenaires, avec quelque chose de très spécifique, c'est que l'État, lorsqu'il vend ses terrains, même s'il les vend pas cher, il met, la plupart du temps, il met en place des clauses de retour à meilleure fortune. Parce que l'État se dit, les aménageurs, les promoteurs s'en mettent plein les poches, donc je veux revoir à la fin de l'opération, je veux bénéficier de quelques subsides. Et donc il y a une clause de complément de prix qui est extrêmement compliquée dans les mécanismes de l'État, notamment au ministère de la Défense, et qui était absolument incompatible avec le mécanisme de l'aménagement. Et donc tout le travail qu'on a fait avec Crédit Mutuel, c'est de convaincre les services fiscaux de revoir cette mécanique pour qu'elle soit adaptée au projet d'aménagement. Ça a nécessité avec la ville et avec la DDFIP et Bercy de nombreux allers-retours qui ont permis d'aboutir à la réécriture de cette clause de complément de prix qui pourrait être applicable éventuellement sur d'autres opérations similaires. Mais ça, c'est quelque chose qui a duré au moins un an et demi de discussion. Ça ne nous a pas empêché de travailler sur le projet en parallèle, mais c'est quelque chose qui a permis de débloquer l'affaire.
Est-ce que ça va pouvoir être dupliqué, ce mécanisme, à d'autres opérations ? Maintenant qu'il y a un précédent, je dirais, toujours le premier, hein, qui est un peu difficile, est-ce que ça pourrait se faire ?
Je l'espère. On a un certain nombre de maires qui nous ont déjà interrogés sur ce dispositif pour qu'on vienne leur expliquer.
Alors, on a un invité de Marc ici. On va terminer justement sur ce trophée. Jessica, vous en complément ?
Alors, ben, juste, il y a eu un très gros travail, effectivement, d'acculturation hein, auprès des services, du service des impôts, que ce soit au national, au local. C'est effectivement, tout comme le dossier d'avant, des dossiers à reproduire. Et encore une fois, l'État qui vient en soutien sur des opérations qu'on n'aurait pas su sortir autrement.
Bien. Bonjour, merci. À tous, chers amis aménageurs, bienvenue à Monsieur Olivier Klein, le ministre du Logement. On est ici, on va juste vous montrer deux opérations très rapidement. Et merci de votre temps et de votre présence. Vous connaissez François Riossec, le président de l'UNAM. Vous avez à vos côtés Nicolas Gravy, le patron d'EFAGE Aménagement, vice-président aussi du réseau national des co-président du réseau national des aménageurs. À mes côtés, Jessica Schmitt, qui est la patronne des aménageurs de la région Lorraine et qui est aussi directrice du Crédit Mutuel Aménagement. Ils ont porté ensemble ce beau projet que, alors on vous en montre le plan masse, c'est quelques éléments. C'est, je vais en faire le résumé pour aller vite, vous m'en excuserez peut-être. C'est la rénovation d'une friche militaire, d'une caserne dans la ville de Montigny-lès-Metz, le projet appelé Lisée, qui est un des récipiendaires des trophées de l'aménagement durable que l'UNAM remet chaque année, parce que c'est un trophée exemplaire, parce qu'il met évidemment, comme toujours dans l'aménagement, en avant différentes formes urbaines, du collectif, de l'individuel, du privé, des échanges et des mobilités douces. Voilà. Donc un projet assez exemplaire. Vous voulez peut-être nous en dire un mot, Nicolas ou Jessica ? Nicolas ?
Donc, alors pour résumer, excusez-moi, je vais répéter un peu ce que j'ai dit il y a deux minutes. Monsieur le ministre, c'est un projet très important puisque c'est un foncier libéré par l'État dans le cadre de la politique de la politique immobilière de la Défense, des casernes qui ont été fermées il y a quelques années, dont celle de Montigny-lès-Metz qui se situait dans un endroit charnière de la ville avec des départs de militaires et donc un manque à gagner entre guillemets pour la métropole de Metz. Et donc, dans le cadre d'un dispositif contractuel entre l'État, l'établissement public foncier de Lorraine et la ville de Montigny, donc un système était mis en place pour que l'État puisse vendre à 1 euro symbolique ce terrain et que l'EPF puisse démolir, dépolluer le terrain pour qu'ensuite le projet soit attribué à un opérateur, donc en l'occurrence nous, suite à un appel à concurrence, pour développer le projet qui fait à peu près 9 hectares, à peu près 700 logements de tout type, accession libre, maison individuelle et logements sociaux, des équipements publics et surtout des espaces publics très généreux. Et donc là, on est typiquement dans le projet de réhabilitation de friches industrielles. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que c'est une friche de l'État. Et je trouve, un petit avis, je trouve que ça ne va pas assez vite sur la libération des fonciers de l'État. Mais ça, c'est un exemple typique de ce qu'on peut faire. Donc donc nous sommes très fiers de ce projet qui est en cours de construction, puisque à peu près 700 logements, 750, c'est ça ?
759, 111 logements en réhabilitation et puis le reste en promotion neuve avec une crèche, une médiathèque, des locaux du conseil général.
Voilà. Et pour la petite histoire, cette caserne Lisée a été la caserne du colonel de Gaulle. Donc, on a été le commandant de 1937 à 1939, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, et en plus, il y a un patrimonial et historique. Voilà.
Monsieur le ministre, peut-être une petite réaction. On a beaucoup parlé toute la journée, effectivement, de réhabilitation, qui est une solution, on le sait, hein, construire la ville sur la ville, profiter des friches pour réhabiliter les bâtiments. Et on voit que non seulement il y a beaucoup d'inventivité chez les aménageurs, mais aussi beaucoup du côté des banquiers qui trouvent aussi des solutions d'activer en fait l'ensemble des mécanismes. Et on voit que quand tout se met en place, finalement, on y arrive, même dans des très petites communes, enfin assez modestes, on va dire, pour dynamiser justement ce tissu des petites villes. Votre réaction ?
Là, on est vraiment sur un modèle alors que je découvre, mais qui est extrêmement vertueux et des modèles qui sont importants à reproduire. Hein, parce que dans cette volonté de sobriété foncière, il faut réfléchir à comment refaire la ville sur la ville, comment travailler sur les friches, comment évidemment... travailler sur les différents fonciers, celui de l'État, celui de la SNCF, celui des villes, parce que dans ce moment si particulier où, un, le foncier peut être rare, deux, on a des obligations tous écologiques à prendre en compte et à travailler sur le foncier existant et réfléchir aux problématiques de renaturation, d'imperméabilisation des sols, bien évidemment, et de produire plus là où on en a le plus besoin. Parce que la crise du logement, le manque de logement est évidemment extrêmement important. Donc, toutes ces opportunités sont importantes. Moi, je suis ministre depuis 9 mois hier, je crois. Et cette question de trouver du foncier, de libérer du foncier, de le mettre à des prix raisonnables est évidemment extrêmement important. Parce qu'à la fin, on aura nos concitoyens qui pourront se loger dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Donc, je salue l'initiative... qui est aujourd'hui un modèle. Hein, et vous savez que le gouvernement, à travers le fonds Vert a relancé des opportunités sur le fonds friche. Hier, 150 lauréats du fonds vert ont été annoncés. Et sur le fonds friche, je crois que c'est les 3 et 4e nature de demande de subvention parce que les collectivités locales ont besoin de travailler sur du foncier déjà existant. Et là, on a tout à la fois, en plus de la réhabilitation de bâtiments existants, plus de la création de bâtiments neufs. Donc, et je ne sais pas quels sont les outils. Et je ne doute pas que l'aménageur, le promoteur ou les promoteurs ont choisi une construction bas carbone et une réflexion sur les matériaux.
On en a parlé évidemment. Alors depuis, c'est vrai, 9 mois, vous entendez aussi pas mal, j'imagine, de doléances aménageurs, promoteurs, puisqu'on est pris dans une injonction contradictoire. D'un côté, zéro artificialisation nette, et on en sait les effets sur la biodiversité, par exemple, mais le besoin aussi des Français de se loger, des villes dynamiques, où on se sent des fois un peu empêché. Dans ce contexte, et face à ces difficultés de logement, quels sont les leviers qu'on peut activer, notamment dans la prochaine loi de finances? Est-ce qu'on parle beaucoup d'abord, du Pinel, d'APL accession? Il y a des choses qui sont sur la table.
D'abord, n'oublions pas que le ZAN, le zéro artificialisation nette, c'est un objectif. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc, respectons la loi, le calendrier de la loi. Vous savez que le gouvernement travaille à une revoyure d'un certain nombre de décrets du ZAN, mais aujourd'hui, rien n'empêche de construire sur du foncier. Il y a parfois des études environnementales, le respect de la loi sur l'eau, mais heureusement, tout n'est pas impossible. Le zéro artificialisation net, d'abord, il y a un net, et donc on peut redonner du foncier là où on en perd. Et pour être un vieil artisan de la ville, je sais que quand on regarde la ville avec une volonté de regarder les espaces déjà imperméabilisés, on peut trouver des moyens d'échanger. Et puis, surtout, ne demandons pas à la loi d'aller plus vite que la musique. Ensuite, oui, on est dans un temps particulier. Quand je suis devenu ministre il y a 9 mois et que je rencontrais des promoteurs, on parlait d'une crise de l'offre parce que élections municipales, Covid, faible production, un certain nombre d'élections qui avaient eu des effets où de nouveaux maires avaient été élus en disant oui. « il ne faut pas construire », etc. Et puis, on a été rattrapé par une crise de la demande et parce que augmentation des coûts des matériaux, augmentation des taux d'intérêt. Et donc, c'est cet enjeu-là qui est extrêmement important. C'est celui qui nous guide dans le cadre du Conseil national de la refondation pour le logement. Comment faire pour construire plus, construire là où on en a le plus besoin, travailler sur la rénovation thermique des bâtiments, construire pour le plus grand nombre. Et puis, puisque j'ai vu beaucoup d'expériences de BIM et d'outils à disposition, je crois que l'enjeu qui doit être le nôtre, c'est de construire plus vite, construire mieux et construire durable. Et c'est vrai que et continuer à construire beau, parce que je crois que c'est extrêmement important. Il faut être attentif à ce que les outils numériques ne soient pas synonymes d'uniformalisation des projets, parce que moi je suis aussi à la fois un amoureux de la ville, un amoureux de l'urbanisme et de l'architecture, et tout ça doit se concilier, parce que nos concitoyens, qu'ils aillent dans du logement social ou qu'ils accèdent à la propriété ou qu'ils soient locataires à l'intérieur d'une copropriété, ils ont droit aux meilleurs matériaux, oui. Ils ont droit d'avoir pas trop chaud l'été et pas froid l'hiver. Et c'est tout ça qu'il faut concilier à la fois dans l'ancien, parce que je rappelle que 80% des logements de 2050 sont déjà là et qu'il faut tout à la fois construire la ville de demain, mais construire la ville de demain, c'est aussi avec le déjà là. J'ai vu la DeLoréal là derrière. Il faut aller vers le futur et respecter notre passé.
Paul Meyer.
Oui, on a un petit bout de futur que vous connaissez bien. On va se rapprocher un peu de votre département pour jeter un coup d'œil avec le très beau projet des cathédrales. Nicolas Gravy, est-ce qu'il est possible de le présenter en 2 ou 3 minutes?
Je le connais,
si vous voulez bien.
Donc, les cathédrales du rail de...
Mathieu Hanotin le raconte en long, en large.
En long et en large, on en parle tout le temps et on va faire des conférences de presse. Juste symboliquement pour dire que l'aménagement, ce sont les grands projets. Et on aborde les grands projets aussi, pas uniquement sur l'aspect foncier, technique, etc. On l'aborde aussi par d'autres biens. Et là, en l'occurrence, sur la culture et la conservation du patrimoine. Donc, juste en deux mots, les cathédrales du rail, des anciens bâtiments de la SNCF. Vous parliez des fonciers de la SNCF.
Je suis tout à la fois ami avec Mathieu Hanotin et Bruno Laforestie, donc ils sont à fond sur ce projet.
Et donc l'idée, c'est d'en faire un musée de, sur les cathédrales qui sont conservées, d'en faire un musée du street art et du hip-hop, qui serait le premier musée de ce type dans la ville où, où cette culture a été inventée, avec un éco-quartier autour, l'éco-quartier permettant de participer au financement global de l'opération. Donc on en parlera ultérieurement, mais c'est symbolique de la diversité des projets d'aménagement que sont en capacité de faire les aménageurs. Et le message que je voulais vous faire passer, monsieur le ministre, c'est que, et là j'interviens en tant que co-président du réseau national des aménageurs, c'est que l'aménagement et les aménageurs, quel que soit leur statut public, privé, ils sont là pour aider les élus, ils sont là pour aider l'État. Et on peut apporter toutes les solutions à tous les problèmes qu'on rencontre tous les jours, toutes les injonctions contradictoires qu'on a au quotidien sur le terrain. Régler les problèmes sur le ZAN, régler les problèmes de mixité sociale, de ville équilibrée, et l'aménagement, le métier de l'aménagement mérite d'être beaucoup mis en valeur.
Absolument, j'ai réuni les établissements publics d'aménagement et les EPF ces deux dernières semaines, donc évidemment ceux qui sont dans mon champ de compétences, et je leur dis ça. D'abord, ils doivent faire le beau, ils doivent réfléchir à accompagner les opérations de promotion, et le foncier est un des enjeux. Et effectivement, regarder aussi ce qui existe, parce que parfois, il y a des bâtiments qui sont de grande qualité et qui méritent d'être qualifiés, requalifiés et utilisés différemment dans des nouvelles vies. Et je crois beaucoup à la nouvelle vie, à la seconde vie aussi dans le logement social, parce qu'il faut réinventer le logement.
Nous reste 30 secondes pour une question de François Riossec.
Juste un mot pour vous dire que l'aménagement, ça a toutes les dimensions. On a regardé des projets très urbains, mais l'aménagement fait environ, concerne en tout cas 55% des logements construits en neuf qui sont ailleurs que dans la ville existante. Et c'est par ailleurs, nous sommes une fédération qui a des leaders nationaux et aussi des opérateurs régionaux, mais toujours dans les opérations qui ont forcément une certaine dimension. Nous avons toujours 20 à 30% de logements sociaux, nous avons toujours des mixités d'habitat, des fonctions et des services, des équipements publics que nous générons, que nous payons dans l'opération ou à côté, avec des participations financières ou des participations en nature, en équipement. Et actuellement, nous intégrons de plus en plus des fonctions des sols, des fonctions de résilience climatique avec les plantations, de la biodiversité, etc. Donc nous sommes en train d'investir ce champ nouveau que la loi nous a ouvert, qui est intégrer les fonctions environnementales en plus des fonctions sociales et de logement ou d'activité. Voilà. Et donc nous sommes en relation avec vos ministères pour faire avancer ce sujet difficile. Merci à vous en tout cas. Merci.
Merci de votre accueil.
Merci Olivier Klein.
Bonne fin de salon alors. Merci à tous.
Ministre du Logement.
Merci public.
Voilà Olivier Klein qui était avec nous, qui a donné son avis justement sur ces trophées, ces présentations. Nicolas, je le disais, hein, voilà, on a eu un invité de marque pour commenter ensemble. C'est vrai que ce projet, alors on a vu avec vous, Lisée, on va juste terminer sur ce projet également. Le quartier des cathédrales que donc Olivier Klein connaissait à Saint-Denis.
Oui, il le connaît puisque c'est effectivement son territoire de prédilection, et je pense qu'il connaît très bien le maire de Saint-Denis. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le détail de cette opération. Si on pouvait mettre les slides suivantes.
Donc 6 hectares de friches SNCF.
6 hectares de friches industrielles. Donc c'est un projet que nous menons en partenariat avec Air Nouvelle. Donc pareil, un peu comme sur Montigny-MS, on est associé avec un partenaire. Et l'idée, voilà, c'est de transformer cette cathédrale du Rail que vous voyez à l'écran avec cette architecture très particulière en un musée du street art et du hip-hop, et aussi d'en faire un lieu événementiel pour qu'ils vivent. Qui vivent toute l'année, et nous ne sommes pas très loin des transports en commun, tout proche de Paris, et donc un écoquartier en travaillant la densité et en travaillant des espaces verts assez, avec un parc public assez généreux. Donc voilà, c'est un projet très urbain, mais qui répond aux questions du moment.
Et premier musée du hip-hop de France, c'est un souhait ou ce sera...
Ah non, c'est une réalité. Nous avons, monsieur le ministre a cité quelques... à citer deux noms de partenaires qui nous accompagnent sur l'exploitation de ce futur lieu, donc avec des gens connus sur la place dans ce monde très particulier. Et le sujet, c'est le financement de ce type d'objet qui est assez compliqué. Mais voilà, nous avons des partenaires aujourd'hui qui nous suivent. Mais là, tout reste à faire. Nous venons d'être désignés lauréats il y a deux mois. Et l'idée, c'est de livrer ça à l'horizon, si possible, 2026. Sinon, ce sera un petit peu après. Ce projet avait été aussi monté. C'est pour ça que ça a été soutenu par le maire de Saint-Denis dans le cadre de la candidature de la ville de Saint-Denis à la capitale européenne de la culture. Alors, Saint-Denis n'est pas retenu à ce titre-là, c'est tout récent, mais le projet se fera quand même. Voilà.
Parfait, ben on en sait un petit peu plus sur ces trophées, ces lauréats des trophées de l'aménagement durable. Un grand merci à nos invités, Nicolas Gravit, directeur d'EFAGE Aménagement, Jessica Schmitt, la directrice région Champagne-Lorraine chez Crédit Mutuel Aménagement Foncier, et Mathieu Berg, le directeur adjoint du Crédit Mutuel Aménagement Foncier. Merci à vous tous. Dans un instant, le dernier trophée. À tout de suite.
Le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.